Bonjour and welcome to our podcast series, Une ville, deux réalités, a meeting between Anglos and Francos 50 years after the Official Languages Act. Ce projet a été lancé dans le but de donner aux deux groupes linguistiques la possibilité d'échanger et d'exprimer leur point de vue sur la vie quotidienne afin de mieux comprendre et apprécier la dualité linguistique de la ville de Kingston et les Mille Îles. This podcast is presented in both official languages.
Bonjour et bienvenue à notre 9e balado de la série Une ville de réalité. Je m'appelle Natalia Martin et merci à tous et à toutes d'être avec nous. Hello and welcome everyone. My name is Natalia Martins and thank you for being with us today. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration, ce qui est un sujet qui signifie beaucoup pour moi. Comme vous pouvez remarquer, par exemple, dans mon accent, je suis une fière immigrante et fascinée par la diversité interculturelle. Today we are talking about immigration. That is a subject that means a lot to me because I am an immigrant in Canada and today a proud Canadian citizen. But we are not here to speak about me. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos invités. Aujourd'hui, nous avons avec nous Isabelle Tardivo, et qui est une récente émigrée au Canada et à Kingston avec sa famille, et Sunita Gupta, a long-time resident of Kingston, both with a fascinating journey. Isabelle, on commence avec vous.
Bonjour.
Parlez-nous, bonjour, bienvenue.
Merci.
Parlez-nous un peu de vous.
Alors, je suis arrivée à Kingston en février 2020. Avant ça, j'ai essentiellement vécu en France, mais j'ai pas mal voyagé. J'ai fait des séjours prolongés, par exemple, aux États-Unis dans le cadre de mes études. Je suis aussi partie en Angleterre et en Espagne en tant que jeune fille au pair, et j'ai vécu 2 ans à Londres pour le travail. Et j'ai aussi fait beaucoup de séjours à l'étranger pour le loisir. Il faut dire que depuis la France, on a des facilités pour voyager à moins d'une heure de vol. On peut être dans beaucoup de villes européennes, donc c'est vrai que ça facilite les choses pour nous. Et puis, j'ai étudié les langues à l'université. Ça m'a permis de m'ouvrir à l'international et découvrir de nombreuses cultures. Donc, notre installation à Kingston, elle a vraiment été mûrement réfléchie. C'est un vrai projet familial. On est parti avec nos 3 enfants, donc à la différence de quand on est parti à Londres avec mon mari, on n'était que tous les deux. Là, c'était vraiment... on a embarqué tout le monde dans le projet, donc pour nous, c'était vraiment important que tout le monde adhère à l'idée de partir. Mm-hmm. Et on a vraiment consulté nos enfants avant de prendre notre décision. On voulait vraiment les impliquer bien en amont et être certain qu'ils soient prêts pour ce grand saut dans l'inconnu. Entre l'idée et la concrétisation du projet, il s'est écoulé 18 mois. Donc, ça a vraiment été un travail de longue haleine avec beaucoup de persévérance. Parfois, on a eu des doutes. Il a vraiment fallu beaucoup patienter. Et à aucun moment, on était sûr que ça allait aboutir parce que tant qu'on n'avait pas la réponse de l'immigration, on n'était jamais sûr de pouvoir partir. Mmh. Et de toute façon, on ne serait pas parti sans un statut nous permettant de faire ce qu'on voulait et nous installer durablement puisque on peut partir en famille. Donc, il ne s'agissait pas de dire au bout de 2 ans aux enfants, bon, bah, on rentre à la maison parce que nos papiers ne nous permettent pas de rester. Et puis surtout, on avait un projet professionnel, donc il fallait absolument qu'on puisse travailler. Donc ça a vraiment été un long, long travail de préparation. Et on a vraiment tout soldé en France. C'est vraiment une page qu'on a tournée pour se donner les moyens de redémarrer ici sereinement. Donc on avait un commerce avec mon mari qu'on a vendu. On avait vendu notre maison. On s'est débarrassé de beaucoup, beaucoup d'affaires. Mm-hmm. Et entre la vente de notre maison en France et l'installation dans notre nouvelle maison à Kingston, il s'est écoulé 6 mois. 6 mois pendant lesquels on avait chacun 2 valises et pas plus. Donc, donc voilà, ça a été un beau challenge. On s'est rendu compte qu'on pouvait vivre avec vraiment pas grand-chose. Voilà, faut pas être matérialiste. et voilà, donc on est arrivé par le programme Entrée Express. Voilà, grâce à une déclaration d'intérêt du programme ontarien des candidats à l'immigration.
Mmh. C'est ça. Ma prochaine question, c'était vraiment par rapport aussi à votre parcours d'immigration. Alors, ça, c'est bien, bien complet. Merci beaucoup. Now, Sunita, the same question for you. Tell us a bit about yourself, please.
For sure. So I was born in Kenya, in Mombasa, beautiful beach, ocean city. Born there to parents of Indian origin, and I lived there till just shy of my 7th birthday. And then at that point, our family emigrated to India. It's interesting that I say that because, yes, we were actually not residents of India, you know, how the political status or the legal status works and residency status works. I lived in India for 10 years and before moving to England for a couple years and coming to Canada finally. And this has been home since the age of 18, pretty much in different parts of Ontario, but pretty much in Ontario. A little bit about my being a perpetual immigrant in the early years of my life. Sure. So we were in Kenya. Obviously, my parents sought out that economic kind of opportunity, and that's what led them to move there. And I'm the youngest of three siblings. It was great what I remembered, a very, very warm country, and I have very good memories of the place, all in all. And my father was a flourishing business owner there. He was actually getting watches and clocks and whatnot from Switzerland. So at a very young age, I can say that along with every shipment used to arrive a box of decadent chocolate for me from Switzerland. I consider myself to be a bit of a chocolate snob because I only the fine quality stuff. Sadly, the events in early 70s, back in 1972, 1971, that took place in Uganda under the presidency of Idi Amin, it led to a lot of people from, in general, from East Africa. It led them to emigrate out of there. And not only Ugandans, but obviously people of South Asian descent who were settled in Kenya thought, you know, sort of took that as a signal that perhaps this unrest or the wave of the political unrest is going to travel throughout East Africa. So while many residents chose to move to Europe, predominantly England, and others to different parts of Canada and the US, our family, having had their roots in India, chose to relocate to India. And I think the understanding was that if we don't adjust or whatever, then we will move to England because we were technically British subjects, as Kenya was also a colony. Mm-hmm. At one point. So again, it was that there was not that we wanted to move, but in some ways it was the circumstances around us that led to our move. Mm-hmm. And coming to India, it was sad in the early years, and I've thought about it a little bit more lately because as a kid, you know, you tune out what you don't like, and you know, it's incredible that resistance or that thick layer of skin that you build just naturally. And oftentimes I was called Habshi, which is a Hindi word and Urdu word for someone belonging to the African race. Here I am, of Indian descent, born to Indian parents, moving back to what they call their home country, and I was the outsider there. And it hurt, but you know, like I said, you just sort of learn to really filter what you don't want to enter within your space. But having said that, at the same time, I am grateful that I had my formative years in India, and I got most of my elementary education there because it's given me a good grasp of the written and spoken verbal fluency in Punjabi, because again, India has so many different states. And here in Canada, we have two official languages. In India, like every state pretty much has their own language. So, being in Punjab, like that's what we spoke at home. So I'm very grateful to that I had that, that opportunity. And it does give help with that identity. And you don't realize that during your, growing years. But now when I think about it, I am so grateful that I had that opportunity. And then circumstances led us to move to England. I was around the age of 16. And once again, I found that I got there. All in all, I have my eldest sister lived there. And we, it was fine. You know, you'll get a soft landing when you have family around. But every now and then, I would find myself being called a packy by some of the people there. And it's like, first of all, again, a derogatory racial slur that they used, you know. And first of all, not that it was okay, even if I was from Pakistan, but again, another case of mistaken identity. So, you know, you're like always trying to figure out, who am I? What am I? Because this is what this is. But nonetheless, a couple years later, moving to Canada, I have to admit that I felt more welcomed here in Canada as opposed to in England.
Okay.
Again, having some family here, having that, it did help with that soft landing and help with some integration in some ways. But this has been home since.
So you said that you felt welcome in Canada. So. How did you find the welcome when you arrived in Canada? So looks like it was pleasant.
Right. So I first came here. It was actually my sister, who's older than I am, my middle sister, she was getting married. And that's what sort of brought us here. And I did go back afterwards to finish the year that I was in England. So I that's when I went back to England for 2 years. So I'd come as a visitor at one point. But it was just, and eventually when I moved, I just found in general people to be more welcoming and curious, like perhaps wanting to know more about you, not necessarily making assumptions about you. And the most I got was, wow, you have a British accent. I mean, and I thought, okay, that's better than being called a Hubshi or a Paki, or if that's what it is, because you sound a little bit different than everyone else around. But all in all, I found it to be very easy. And it's also perhaps reflective of the age that I moved. I came here, I did a year of high school. And there were some students that, you know, like, yeah, some that are more accepting than others, and it takes a while. But all in all, I found it to be a lot more welcoming.
Super. So, same question for you. Isabelle, la même question pour vous.
Alors, mon ressenti est exactement le même que celui de Sunita. Je trouve qu'on a vraiment été très, très bien accueillis. On avait noué des contacts avant notre arrivée, notamment avec l'école dans laquelle les filles allaient être scolarisées. Elles sont scolarisées à l'école Miville. On avait aussi pris contact avec un agent immobilier pour pouvoir commencer à visiter des maisons à notre arrivée. Et puis aussi le propriétaire de notre location Airbnb. Et vraiment, tous nous ont super bien accueillis. Et c'est vrai que c'est précieux parce qu'on est venu ici, on connaissait personne, on n'avait pas de famille. Donc c'était un peu un grand saut dans l'inconnu. Et c'est vrai que d'avoir ces quelques contacts sur place et qui étaient si gentils avec nous à notre arrivée, ça a vraiment été très, très précieux. On est aussi venu à la CFOMI peu de temps après notre arrivée, dans les 2 semaines qu'on suivit. Et vous imaginez pas combien c'est important pour nous d'avoir quelqu'un sur place qui peut répondre à nos questions, parce qu'on a tellement de questions qui nous semblent bêtes quand on arrive dans un nouveau pays. Comment on fait pour aller chez le docteur? C'est vraiment, on est tout petit en fait devant l'immensité de tout ce qu'on a à découvrir. Donc oui, globalement, je trouve qu'on a été vraiment super, super bien accueillis.
Super, je sais très bien de quoi vous parlez, parce que j'ai ressenti la même chose, toutes ces certains obstacles qu'on va encore se reparler à propos de ça. Vous avez dit que vous êtes arrivée cette année, l'année 2020.
Oui.
Bon, quelle année pour émigrer, hein?
N'est-ce pas? On est arrivé en février, vous imaginez? À peu
C'est
près.
Ça.
3 semaines avant le début du confinement.
Je peux en parler. Les conséquences de la pandémie.
Ouais. Ça tombait vraiment pas bien. Ça tombait vraiment pas bien parce que, comme je vous l'ai dit, ça nous a pris 18 mois de mûrir le projet. On a beaucoup beaucoup attendu. La réponse de l'immigration s'est vraiment fait attendre très longtemps. Les filles tous les jours elles me disaient maman, t'as reçu la réponse? Et ça pendant 9 mois, on a réellement attendu la réponse de l'immigration pendant 9 mois. Donc, quand on a eu le feu vert, vous n'imaginez pas l'enthousiasme général dans la famille. On a pris l'avion, on arrive ici, on commence à s'installer, c'était super, on avait eu une énergie débordante, on avait envie de s'intégrer, de sortir, visiter, tout tester, faire des activités, rencontrer du monde. Et puis, si je devais comparer ça à quelque chose, je dirais que c'est un peu comme si vous prépariez pendant des mois pour courir un 100 mètres. C'est des mois et des mois d'entraînement. Vous êtes prêts, vous êtes devant la ligne d'arrivée, on vous donne le top départ, pop, vous partez. Et puis d'un seul coup, on vous dit stop, ne bougez plus.
Oui.
Et là, c'est le mur. Donc, on a fait comme tout le monde, hein. On a pris notre mal en patience, on est resté enfermé. Dans notre malheur, on a quand même eu beaucoup de chance. C'est vrai que les filles, déjà, elles ont pu continuer l'école en ligne, donc ça nous a donné un lien quand même vers l'extérieur, même si en 3 semaines, on n'avait pas du tout encore eu le temps de nouer des contacts. C'est vrai que le fait qu'elle continue l'école en mode virtuel, ça a vraiment été super. Et puis le personnel, il a été vraiment présent à l'écoute. Pour leur bien-être, je pense que ça a vraiment contribué. Après, on a eu la chance de trouver la maison juste avant qu'on se confine. On a vraiment été rapide pour ça. Donc, on avait signé une promesse de vente juste avant le confinement, parce que sinon, je pense qu'on aurait dû attendre longtemps. Et on avait toutes nos affaires qui étaient dans un conteneur qu'on devait rapatrier dès qu'on pourrait. Donc, on a eu de la chance pour ça aussi. Et puis, on a aussi eu le temps de faire la plupart des démarches administratives pour avoir une existence aux yeux de l'État ici, juste avant le confinement. Sinon, c'est vrai qu'on aurait vraiment été embêtés. On aurait juste passé la frontière et on avait vraiment, vraiment beaucoup de démarches à faire. Donc voilà, c'est sûr, ça a été un gros frein, mais malgré tout, je pense qu'il y a eu pire. Je pense qu'il y a des personnes qui sont arrivées vraiment en plein milieu du confinement. Ça n'a pas dû être évident pour elles.
Sunita, so in your case, you didn't immigrate to Canada in a pandemic period, but Isabel did, and we were speaking about that, the impact of the COVID. Do you think that the pandemic has had an impact in the immigration and the integration of the newcomers?
I'm sure it has, if I'm going to speak honestly, not necessarily using any stats or anything, but of course we know that, for instance, international students haven't been arriving, they are taking their classes virtually, they're taking their classes in their home country. It is also interesting that they're still paying tuition fees that normally they would be paying. And we all know that the underlying sentiment many times for those international students isn't as much about education as it is about being able to come or find a way to come to Canada and eventually integrate. So that's one side of it. And while we are, you know, other immigrants continue to arrive, but it looks different, right? It does look different. And for sure, the integration piece is impacted. We're living in such a screen world right now.
Oh, yes.
You know, not having those in-person meetings and networks and events, and if there are any at all, there's very small scale. And my goodness, even recognizing people with masks on. Sometimes I've been in situations where I knew someone really, really well not too long ago, and I ran into them downtown, and they're saying hi to me. I mean, I guess maybe but I couldn't tell, and I had to tell them, "Can you take off your mask? It's from a distance. I don't know who it is." So it is very difficult, right? Mm-hmm. When you think about it, because that human contact, that human interaction is very, very important as we are trying to build these new connections. I mean, it's difficult enough without a pandemic. So not having that connection, not having that, that human interaction, you know, because it is a big part of that social integration. I'll give you one example. For instance, Natalia, you know that we have the big multicultural festival every year in September that is such a wonderful, vibrant place for everyone to connect and learn about each other. That didn't happen this year, right? That's such a big part of the community. And little did we know that when we had the 10th one last year, that we would be hosting another. So it's a place that it's not just about the festivities of the day. It's the opportunity to connect within your own community with other communities. And so that's just one example of what we're not being able to do, right? So and so many other ethnocultural associations typically have smaller events. They, I was chatting recently with someone in February, it's Black History Month. That's always an event to attend as well. Like there's so many other different events. I remember Chinese New Year got, like that party got canceled as well. So, but those are opportunities for newcomers to come into a new country and see how this is happening. There is some portion of my culture and my heritage that is being preserved here in this new land. And it does help with that sense of belonging, right? So we, mm-hmm. for sure, we're missing out on all mm-hmm. that. Sure.
You spoke about a very good point, for example, the mask, because for someone that that has the language, that the language is one of the barrier, so is more difficult to understand with the mask on. So, yeah, for different for reasons,
sure.
yes.
Mm-hmm. For sure.
So... We spoke just very, very quickly about the identity. I would like to speak about that with you because it's so interesting, and we cannot speak about immigration without speaking about identity. Une question pour vous, Isabelle. J'aimerais vous demander si vous avez, si avez-vous le sentiment que votre identité a changé depuis que vous êtes arrivée, ou a évolué, en quel sens, de quelle façon?
Alors, ça fait pas encore très très longtemps que je suis là, mais j'aurais tendance à dire, je pense, je suis d'avis que l'identité, elle évolue un petit peu toute notre vie. Je trouve pas que ce soit quelque chose de figé. Et c'est quelque chose qui se bâtit au fil des années et au cours des rencontres. Donc oui, je pense que ce type d'expérience a un impact sur qui on est. On a des racines. Les racines, elles sont enterrées, elles sont intouchables. Par contre, la partie qui sort de terre, si je peux appeler ça l'arborescence, elle évolue en fonction de l'environnement. Donc je pense effectivement que notre identité, elle est amenée à changer en fonction de l'environnement dans lequel on est. Et je pense que ce changement, il est forcément positif, puisque immigrer, pour moi, c'est un vrai enrichissement. On découvre de nouvelles cultures, des nouveaux modes de penser, des nouveaux modes de fonctionner. Et on a besoin de se remettre en question, et je trouve que ça nous fait vraiment grandir. Donc, j'imagine qu'après plusieurs années, on sera changé et qu'on pourra partager cet enrichissement avec d'autres personnes autour de nous.
C'est une belle image que vous avez partagée avec nous.
C'est ça.
Je suis tout à fait d'accord. In your case, Sunita, so you came very young, but did you feel like your identity changed when you since you arrived, or at the moment when you arrived, or some months later?
No, I mean, first of all, at the age of 18, quite honestly, mm-hmm. about these things. I mean, you know, it would be different if I was landing mm-hmm. on how I feel. But not really. All I can say is that, as I referenced earlier, you know, moving around, by then I had lived across four continents by the age of 18. Mm-hmm. And all the moving around, it strengthens who you are. And I feel there's a part of each country that you take with you, and it continues to be there. I mean, whether being in love with the warm climate of from Kenya, and the ocean and the food, and you know, that very sort of you know, free kind of relaxed life, and then coming to India. I mean, mind you, I moved, as you can tell, to progressively cooler countries or colder countries. I went from a country there where I had to fake sick one time as a kid in order to put on a new cardigan that was brought to me by my aunt from England, because I wanted to wear it, but the weather was so beautiful, I had to pretend I was not well, you know, just, and then I come to India and suddenly I get introduced to my first teacher. Of course, as an Indian, obviously a lot more from there is what I carry with me, and having lived in England and then now in Canada. But I think, no, you hang on to that, and while you absorb the new culture that you're in. So it does help you shape who you are. Each place contributes to that. And I think it's a sum total of everything that I am today, is of all the places that I've lived in.
And I believe that is different for everyone, of course. Yeah.
Right.
And if we speak about the immigration in the practical, est-ce que dans votre cas, Isabelle, est-ce que vous avez senti des barrières pendant votre parcours, si vous avez dans la pratique du quotidien?
Alors, dans la pratique du quotidien jusqu'à présent, pas vraiment ressenti de barrière. Notre première barrière, ça a été clairement le long processus d'immigration, mais une fois que celle-là est tombée et qu'on est arrivé.
Mais il fallait faire des preuves.
Ouais, alors.
Ça a été facile pour trouver un emploi ou non?
Ouais, alors, c'est sûr que quand on arrive dans un pays dans lequel on n'a jamais vécu et où on ne connaît personne, on doit se remettre en question totalement. C'est un peu comme un nouveau départ, comme si on repartait à zéro, parce qu'on n'a pas d'existence ici. Mm-hmm. À notre arrivée, personne ne nous connaît, on n'est enregistré nulle part, on n'existe pas en fait, à part aux yeux de l'immigration, parce qu'elle sait qu'on est passé, mais c'est vrai que c'est un peu l'occasion de prendre un nouveau départ quelque part. Hein. C'est le temps de faire un bilan personnel et puis se donner la chance de redémarrer une nouvelle aventure. Donc c'est un peu comme s'il n'y avait pas d'enjeu, parce que personne ne sait qui on est, on ne sait pas ce qu'on vaut. Donc oui, c'est sûr, on doit faire nos preuves. Ici, on n'est pas évalué de la même façon que dans notre pays d'origine. Les critères d'évaluation, les repères ne sont pas les mêmes. Donc, par exemple, pour l'immigration, j'ai dû faire évaluer mon diplôme. En France, j'ai ce qu'on connaît sous le nom de Bac plus 4. Donc, c'est 4 années d'études après le diplôme d'études secondaires. Mais il fallait que je puisse en parler ici. Donc, j'ai dû faire évaluer mon diplôme. On a dû faire évaluer nos niveaux de langue aussi. Donc pour l'anglais, pas de problème, c'est une langue qu'on a apprise, mais c'est vrai que ça nous a amusé de devoir refaire tester notre français, c'est notre langue maternelle. On a eu un peu l'impression de retourner sur les bancs de l'école. En arrivant ici aussi, alors c'est assez curieux, mais j'ai dû accepter d'être à nouveau un jeune conducteur. Les compagnies d'assurance ne tiennent pas compte de l'antériorité. Donc, même si ça fait 30 ans que j'ai mon permis de conduire, ici, je suis considérée comme un jeune conducteur. Mais bon, c'est pas grave. On redémarre à zéro, on va refaire nos preuves. Et puis, d'un point de vue financier aussi, auprès de la banque. Alors, c'est vrai qu'ici, au Canada, on fonctionne beaucoup avec l'historique de crédit. Donc, quand vous arrivez ici et que les banques ne vous connaissent pas, elles ne savent pas qui vous êtes, elles ne savent pas si elles peuvent vous faire confiance. Donc, au début, on n'a pas eu droit à notre carte de crédit, par exemple, même si on est arrivé avec tout notre patrimoine et toute notre épargne. Voilà, on n'était pas encore digne de confiance. Donc, c'est certain, on doit faire nos preuves, mais je trouve ça plutôt stimulant. Il y a plein de choses qu'on prenait pour acquises chez nous et qu'on doit redémontrer ici, en fait. Donc, c'est sûr, ça nous fait faire un travail sur nous-mêmes et c'est vraiment l'occasion de faire une sorte de bilan personnel. Concernant le travail, oui, j'ai eu la chance de trouver assez vite. En fait, je n'ai pas envoyé beaucoup de candidatures. J'avoue que j'ai été assez sélective et je n'avais pas envie de travailler uniquement pour gagner un salaire. En fait, j'avais envie de m'investir dans quelque chose qui me parlerait vraiment. Je me sentais d'une certaine manière un peu redevable envers l'immigration qui a validé mon dossier sous le volet du capital humain et du bilinguisme. Et donc, j'avais un peu envie de rendre ça. Et j'ai trouvé la notion de communauté vraiment inspirante au Canada. Et puis, j'ai la chance de maîtriser le français et d'avoir un niveau tout à fait correct en anglais. Donc, c'est vrai que ça, c'est un gros avantage. Donc, je crois que j'ai envoyé que 3 CV et j'ai vraiment trouvé très, très vite derrière. L'autre point aussi, c'est que c'est vrai qu'on est arrivé ici sans famille sur place. Mais on a la chance de pouvoir s'intégrer à la communauté francophone. Vraiment, la communauté ici, c'est quelque chose d'important et c'est amusant parce qu'on n'a pas trop ça chez nous. C'est vrai que l'esprit communautaire, il est vraiment très développé au Canada et dans tous les domaines, en fait. C'est assez amusant. Il peut y avoir des communautés dans le quartier, l'aide aux aînés, les vétérans, l'aide aux démunis, puis bah, évidemment, la communauté aussi liée à l'origine géographique et ou culturelle. L'impression que j'ai, c'est vraiment une forme de bienveillance. On n'a pas connu ça auparavant, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous enrichir. On sent que les Canadiens sont beaucoup plus axés bénévolat que ce qu'on a pu voir, nous, par le passé. On a l'impression que les gens, ils donnent beaucoup plus facilement de leur temps.
Dans le fond, il faut se réinventer.
C'est ça, c'est ça. Moi, mais c'est une énorme opportunité, en fait, parce que, en fait, vous arrivez vraiment ici sans historique. Donc, si vous avez envie de changer, personne ne vous dira « Oh, mais ce n'est pas ce que tu faisais ailleurs. » Moi, j'ai vécu dans une petite ville de 10 000 habitants et j'ai été la fille d'un instituteur. Donc, j'ai toujours un peu eu l'impression d'être la fille d'eux. Je me baladais en ville et « Oh, c'est la fille !» En plus, mon père, il était sévère. Alors, j'ai dû un peu porter ça toutes mes jeunes années. Et c'est vrai que là, le fait d'arriver dans un pays où personne ne vous connaît, bah, toutes les portes sont ouvertes quelque part. Vous pouvez tout tenter.
C'est un bon point. And in your case, Sunita, what are your some of your barriers that you experienced when you arrived? Did you have to prove your worth? Did you find that was difficult to find a job?
Yeah, for sure. I mean, there are some barriers that you experience. I mean, I can say for me, perhaps the biggest barrier that I did not have was not having being able to speak the language, right? I had always gone to an English-speaking school in India and then in England, obviously, and here. So that helped with a great deal because it does allow for you to have that instant connection. I mean, absolutely. When you can't have that. And because I didn't have my elementary schooling here in Canada, I came at that sort of critical age of, so I remember one of my cousins who had been here longer, he'd been here about 15, 20 years before I had, him giving me a lesson on all the provinces and this, that, and the other, like teaching me a little bit. And I still recall that, he would just in conversation, if we're driving somewhere, getting my head around all of that. And the other thing was that when I first came, I was living in Ottawa. So as we know, as a national capital, it's bilingual and road signs and how to pronounce things in French and all that. So it was, it's so easy to not get the accent right and whatnot. So you are very mindful of that. But along those lines, I think one of the things that I, we did have family. So for sure, the family support that is sort of just inherent, it's just sort of taken for granted, was there. And in some ways, I wish I had known more about reaching out to what other supports were out there, like social supports, so that we could have gotten more out of those initial years. But we just relied heavily on the institutional knowledge that laid within other family members or extended family, right? So that's which has its pros and cons when you think back or look back. But in terms of proving, yes, I had a bit of an incident one time with Ottawa U because I'd only been in Canada, hadn't been full on 3 years yet. And I think they wanted me to take the exam. I think it's called TOEFL. And I refused to take that. I actually took that as a bit of an insult because English is my first language in many ways, or I have two first languages. And frankly, before I learned how to read and write Hindi, I might have spoken it. I learned how to read and write English. So I was really indignant, and I'm not doing that. They were asking me. So I actually went and took my case, and the person was just looking at me, and she's like, I said, I'm speaking to you right now, aren't I? Like, what else do you need in terms of proof? So I got out of that, and I was pretty proud. That was sort of my first kind of victory, challenging something that I consider, even to date, a systemic barrier, because this happens to many other people I have since encountered, especially in my current career, that you could be teaching English yourself as an instructor, and then if you're doing some other certification, you're made to go through CELPIP or something. And I just think that's so bureaucratic and so unnecessary, and I really feel that we need to unless there is a test specific to working knowledge within a sector or a career, but I think it is just pure bureaucracy that we have to be subjected to those tests, especially when you have that level. I get it when you don't, but
And to make friends, it was something that was difficult for you?
Yes and no. I mean, there is an affinity then when you are new, like you do gravitate to other students that I met in school or in the first couple of years of high school, university, that are from perhaps from India and Pakistan, because there is that underlying, you know, whether you're talking about the popular culture and this, that, and the other. So there is that natural affinity. And it is a mixed bag. You know, you have that. But to build a real solid connection where you can, it's not an acquaintance, but it is a friend, that mm-hmm. takes time, but it happens. Oh, yes. Mm-hmm. But that takes time where you can actually pick up the phone and call somebody and share something deep or share something very personal. But acquaintances, yes. And I think that's partly, when you try, like, that wasn't that difficult. At the same time, yeah, you know that there is some discrimination happening, or there were even, strangely, there were some students from within the community that were very open to reaching out and connecting, while others thought they were absolutely the cool crowd and did not want to have anything to do with me, who was a recent arrival. So a bit of a mix.
Okay. La même question pour vous, Isabelle. Est-ce que j'imagine que cette période de pandémie, ça n'aide pas pour faire des amis?
Non, ça c'est clair. Non, pour le moment, on n'a pas pu nouer beaucoup de contacts, voire pas du tout en dehors des contacts liés à des circonstances particulières comme l'école ou le travail. Mm-hmm. Mais on a rencontré nos voisins de loin, mais voilà, on ne peut pas sympathiser davantage. Donc on sait qu'il va falloir beaucoup de patience pour ça. Déjà, c'est pareil par la pandémie, mais même sans ça, on sait que c'est des choses qui prennent du temps et on peut pas forcer les choses non plus. Et en plus, on n'a pas forcément la même façon de socialiser que les Canadiens. Donc ça, il faut respecter. Je pense qu'il y a plus d'abord une période d'observation. Il faut pas brusquer les choses. Nous, on a très envie de rencontrer du monde, mais ça se fera avec le temps. Et c'est vrai Oui, chez nous, on accueille beaucoup les gens chez nous. On invitera facilement les voisins à boire un apéritif à la maison, mais je n'ai pas le sentiment que ça se fasse beaucoup ici. Donc voilà, on va s'adapter, on va faire comme les gens font ici.
Mais est-ce que ça a été une surprise pour vous?
Non, parce qu'en fait, comme on a déjà vécu ailleurs, on s'est déjà rendu compte, même en Angleterre, que les gens ne s'accueillent pas non plus chez eux là-bas. C'est peut-être plus quelque chose de latin, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'en Espagne, en Italie, ils sont plus comme ça. Donc, on ne s'est pas laissé surprendre sous cet aspect-là, c'est clair. On s'attendait à ce que ça ne se passe pas de la même manière. Mais c'est vrai que quand on est bien préparé, on est prêt à accueillir la nouveauté, la différence. Donc, ça nous choque pas.
Parlant de ce sujet, est-ce que avant d'arriver, est-ce que vous aviez des généralisations ou des stéréotypes à propos du Canada?
Alors ça, c'est certain qu'il y en a. Il y en a. Alors je vais parler au nom des Français d'une manière générale, pas forcément de moi. Mais quand on pense au Canada depuis la France, déjà la première chose qui nous vient à l'idée, c'est que c'est un très grand pays. C'est vrai que si on compare le Canada à la France, évidemment la France, c'est tout petit. Mais ça se décline sur tout, c'est-à-dire que tout est grand. Pas juste le pays, les routes, elles sont très larges. Les rations dans les assiettes, elles sont énormes. Les conditionnements, j'ai jamais vu un paquet de 20 kilos de farine avant, sauf dans un contexte professionnel. Les lits, ici, la norme, c'est au moins queen, voire king. Chez nous, on dort dans un lit double, ça suffit amplement. Les voitures, elles sont énormes. La petite voiture ici, c'est la grande voiture chez nous. Donc c'est vrai que les proportions ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça, c'est un premier stéréotype. C'est vrai que quand on a vu le Canada, on a l'impression que la France, c'est une maquette à côté. C'est un pays miniaturisé. L'autre image qu'on a, c'est que le Canada est bilingue. Et ça, c'est vrai que si j'interroge la plupart de mes amis en France, ils diront « Oh, mais ça va, tu parles français au Canada ?» Ben non, pas partout. En fait, on n'a pas forcément conscience qu'il y a des zones qui sont vraiment, vraiment anglophones et que dans ces zones anglophones, les gens ne parlent pas forcément français. Donc, c'est vrai qu'il y a les deux langues qui cohabitent, en particulier dans les administrations, mais tout le monde ne parle pas forcément les deux. Donc, ça, c'est vrai que là-dessus, on s'est un petit peu laissé surprendre. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que le français soit plus parlé que ça, même si, encore une fois, en arrivant ici, on s'était préparé au fait qu'on arrivait dans une région anglophone. Mais on pensait que les gens parleraient plus français. Une autre image qu'on a des Canadiens, c'est que c'est des gens gentils. Donc, ça s'est avéré vrai jusque-là. C'est vrai que c'est des personnes, on les trouve avenantes et ce qu'on aime bien avec les Canadiens, c'est qu'ils sont respectueux des règles, de ce qu'on a pu constater en tout cas jusque-là. Alors tout à l'heure, Sunita parlait des extrêmes de la bureaucratie, mais c'est vrai qu'ici, il y a des cases, on coche les cases et on respecte les règles, quoi. Et nous, on n'a pas l'habitude de ça, nous autres, les bons Français. on est plus réputés pour être des râleurs, on cherche toujours à contourner la règle. Donc, c'est vrai que c'est une grosse différence. Et puis, sinon, oui, les derniers stéréotypes, les dernières images classiques du Canada, c'est le sirop d'érable, c'est l'été indien, les lacs, les moustiques, l'hiver très long, le froid, la neige.
Voilà, les moustiques, c'est quelque chose, oui.
C'est ça. Voilà, pour faire un peu le tour.
We are speaking about generalizations and stereotypes. So when you knew that you were coming to Canada, what was your idea about Canada? Sunita.
Yeah, for sure. I mean, as a family, we had traveled to England prior to even living there. We had made a couple of different trips, like once from Kenya when I was quite young, and then again from India. So, of course, we knew England. And then before I traveled to India, my mom and my sister had traveled prior to me as visitors and sort of, you know, checking out the space. And by the way, I don't know if I mentioned, the reason I don't talk about my dad is, like, when we did leave Kenya, he passed away in the interim when the decision was made that we were going to move from Kenya to India. He didn't make it. So that led to a lot of struggles and challenges later. So my mom and my sister had visited Canada, and all I heard was everything was in relation to England kind of thing. So it's bigger than England. The houses are bigger. The roads are bigger. So everything in that European context, right? Like it was bigger. It was the greenery, the land, all of that. And of course they hadn't been here in the winter time. So they only had all the glory to share. So I had that expectation. The bar had been set very high already. And I must say that it was actually very much in keeping or in line with what I had heard, what my imagination had been. The only difference was when I first came here, I came in March and there was like quite the snowstorm that happened. Super excited to see my first snowstorm, and this cousin of mine pushed me through. It's okay, you'll get over it after a few winters, don't worry. But so for that part, yes, everything that I'd heard about Canada, and in general, that people were very nice, very, you know, very friendly. I can't say all in all that I was disappointed in that respect, because everything I'd heard was positive, and for the most part, my experience was very positive.
Great. Let's speak a little bit about choc culturel, cultural shock. Choc culturel, c'est défini souvent par la période de transition stressante lorsque des individus passent d'un environnement familier à un environnement inconnu. So normally we can say that a cultural shock is the stressful transitional period when individuals move from a familiar environment into an unfamiliar one. Et pendant cette période, la personne peut sentir parfois que son identité est menacée. Tantôt, on avait parlé un peu sur l'identité aussi. Ou sent qu'un état de désorientation de son identité, que ça peut gérer une sensation de confusion, de la pression et parfois le sentiment de perte d'identité. Est-ce que vous, par exemple, Isabelle, est-ce que vous avez déjà ressenti ça?
Alors, le choc culturel à proprement parler, non. Mais parce que finalement, il n'y a pas un gros décalage en termes de culture entre la France et le Canada. J'ai envie de dire qu'on vient d'un pays où les règles, les codes, les modes de fonctionnement, finalement, ils sont assez similaires. Il y a des différences, mais rien vraiment qui soit déroutant. Je ne sais pas ce qu'on veut dire, que le choc culturel, on l'a eu plus à l'égard de là d'où on vient, de l'image que les gens ont de nous en tant que Français, parce que finalement, on s'est rendu compte que c'est en quittant notre pays qu'on se découvrait vraiment et qu'on avait l'image de comment on est perçu de l'extérieur. Donc, c'est vrai que les Français ont fait un peu figure de mauvais élèves. Râleur, toujours en grève. mais je pense qu'il y a une question d'âge aussi qui intervient dans cet aspect-là, parce qu'on n'immigre pas à 20 ans comme on immigre à 50 ans. Je peux reprendre l'exemple de quand je suis allée aux États-Unis pour la première fois, j'avais une vingtaine d'années, et c'était amusant parce qu'en fait, les États-Unis, je ne connaissais pas du tout, et j'avais simplement regardé les séries à la télé, et j'ai vraiment eu l'impression d'arriver dans une série télévisée. Est-ce que c'était un choc culturel? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'était assez surprenant. Maintenant, avec l'âge, voilà, on a pas la même insouciance ou la même naïveté. Et c'est vrai que quand on est jeune, il peut y avoir un décalage entre les attentes et la réalité. Mais avec le vécu qu'on a et avec le temps, on sait plus quoi anticiper. Voilà, on est plus prudent et plus clairvoyant. Généralement, on risque moins d'être déçu. Mais c'est vrai que pour illustrer l'impact de l'âge, j'ai interrogé ma fille, elle a 16 ans. Et du coup, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, elle. Et qu'est-ce qu'elle a pensé de son arrivée ici au Canada? Est-ce qu'elle a ressenti quelque chose? Alors, c'est biaisé pour elle aussi, évidemment, puisqu'on est dans cette période de pandémie et que ses contacts, ils ont été assez limités. Et donc, ils se limitent à ceux, les jeunes qu'elle voit à l'école. Et même son école, Milil, je ne suis pas sûre qu'elle soit tout à fait représentative parce que c'est une petite école et c'est une école francophone. Mais c'est quand même intéressant. Donc, elle a trouvé que les jeunes n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt que chez nous en France. En France, ils ont tendance à accorder beaucoup plus d'importance à l'image, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans leur apparence d'une manière générale. Elle trouve que les jeunes qu'elle a autour d'elle, ils ont plus la notion de la valeur des choses. Par exemple par rapport au téléphone, à la marque de téléphone ou aux marques de luxe, elle trouve que l'environnement dans lequel elle a évolué en France, c'était plus la norme. Elle trouve aussi que les jeunes, ils ont envie de travailler tôt ici. C'est vrai que dès 16 ans, on voit des jeunes qui travaillent tôt parce qu'ils ont envie de s'assumer rapidement et d'être vite indépendants et de pouvoir s'acheter leur première voiture. On se rend compte qu'ici, les jeunes ont très tôt une voiture, mais c'est parce que le pays est tellement grand qu'il faut pouvoir conduire. Elle trouve aussi que les jeunes qui l'entourent portent beaucoup moins de jugements négatifs les uns sur les autres. Donc, elles portent moins le poids du regard des autres. Elles sont beaucoup moins critiques. Et enfin, d'un point de vue scolaire, la comparaison qu'elle peut faire entre son précédent établissement et Lille. Donc, elle trouve qu'ici, les enseignants accompagnent beaucoup plus les élèves. Ils sont beaucoup plus attentifs au bien-être de l'élève. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est des différences intéressante.
Oui, absolument intéressant. Oui. Sunita, so we are speaking about cultural shock, and as I said, when we speak about cultural shock, we speak about a stressful period, and sometimes during this period, the person can feel confused about his or her identity. Or the person feels a state of disorientation of their identity, can create a feeling of confusion, pressure, or sometimes a feeling of loss of identity, or like a feeling that they must to affirm themselves. Have you experienced cultural shock or all these feelings?
I mean, I don't know if I would call it cultural shock, but it was a pleasant multicultural surprise, and I'm going to elaborate on that. Because I started my journey in Canada while living in Ottawa, that's where my sister was, and obviously it's a lot more diverse than Kingston is, you know, and it was just interesting because when we lived in England, for the most part, you know, we didn't really associate with that many people from different parts of the world. And in no time while I was in Ottawa, my friends were of Persian origin, Indian, Taiwanese, from Bangladesh, obviously, you know, like all born here, some second generation, some first generation as well. And it was really, it really helped open my view up to the, it's like gain that global perspective, like, wow, you know, you feel like you just came out of from being under a rock, because obviously I didn't have those in India, in Punjab, where I grew up for the most part, I didn't have those interactions. And even in England, frankly, for the 2 years that I was there, we were pretty much submerged in our own community. My friends were pretty much from the Indian background. So that was a big shift, but it was a very pleasant shift. So there must have been something leading up to this role that I am in now, you know, that yes, I really enjoyed that because it was fantastic to learn from one another. I mean, yes, once we are done talking about the Canadian winter and this and that, you know, the vastness of the country and everything else, that for me was a very different experience, a new experience, a novel experience, and it gave me that opportunity to really gain a diverse perspective on life, on views, what other people's parents allowed them to do and not do. And that's the other thing too, it was that age where you tend to be a little bit more adaptable, and where there are situations, you tend to have a little bit of that code switching, so you can integrate a little bit better and whatnot, and you do all those things, and I don't think you're very aware of what you're doing at the time, because you're just trying to fit in and belong and be a part of the bigger group. But it was, again, I think I defined that as a good worldly experience myself.
So, I can also speak by myself. Je peux aussi parler de moi-même. Je suis arrivée, ça fait 7 ans. It's been 7 years that I came and I felt a cultural shock. I remember that the first cultural shock that I felt was when I saw the houses. And my husband said that the houses are made out of wood. And I thought, is it secure to live inside? because in my culture is everything is done with the cement, and also the dinner times for me was too early. So finally, everything I found that everything was too early. Even the school bus was too early. And I remember that feeling cultural shock when I organized my the first birthday party to my son that was turning 4 years old. And at the time, so we invited his friends from the school. And the mother of one child asked me, what time as the was the party finishing? And I said, how can I know? I don't know. So I said, so we will stay while everyone is enjoying the party. So for me, as was impossible to give a specific time to finish the party, was a shock for me as well. So speaking about this, so everyone is living the cultural shock different way. Pour vous, Isabelle, pensez-vous que ça peut être plus facile si les gens, les immigrants arrivent ici et ils ont de la famille sur place?
Oui, c'est sûr. Je pense que quand on arrive et qu'on n'est pas tout seul et qu'on a des personnes pour nous accompagner, nous aider à nous intégrer, nous aider à rencontrer du monde, c'est forcément plus facile. Alors après, il y a plusieurs aspects. Nous, c'est vrai qu'on est arrivé en famille. Déjà, arriver en famille, c'est pas la même chose qu'arriver tout seul. Et le fait d'être plusieurs, je pense que ça facilite les choses parce qu'on multiplie les occasions de rencontrer du monde. On a vu ça, c'était pas en partant à l'étranger, mais quand on a déménagé de Paris à l'époque avec les enfants pour aller s'installer en province, Le fait d'avoir les enfants à l'école, ça nous a permis très vite de nouer des contacts, le fait de les accompagner aux activités. Donc, le fait d'avoir des enfants, déjà, je trouve que ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre vers les autres. Après, il ne faut pas tomber non plus dans le piège de rester entre nous, parce qu'être en famille ou même avoir de la famille, on peut très vite se limiter à ce petit cocon et pas s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, il ne faut pas tomber non plus dans ce piège-là. Mais c'est sûr que, oui, avoir de la famille sur place, je pense que ça aide. Mais ne pas en avoir, ça ne nous empêchera pas non plus de nous intégrer, de rencontrer du monde, c'est certain.
So, Sunita, and what about you? Do you think that is easier for someone to having a family here in Kingston that can be easier to set?
Yeah, for sure. It does make a difference having family or friends around. It does give you some of that support, that because they've gone through some of the things before, they've gone through some of the challenges before, so they are able to see you through some of that. And for myself, again, speaking personally, I had that when I came to Ottawa, and we had fair bit of immediate and extended family who shared their experiences. So while there's a lot of advantage to that, sometimes I wonder if I would have carved out a different path for myself had I kind of gone out independently to explore some of the things. And so there is that. But I don't know. I don't even know what was there for me to be able to access back then in terms of the social supports. I have no idea, because it was sort of customized and handed to me, so to speak. But now, when I see what's there, and I see the settlement agencies such as ACFAMI and KCHC or ISCA doing the work that they do, yes, I think there is a lot of support available for newcomers to help them navigate when they come here, to help them navigate the system. But at the same time, it is not a replacement for friends and family. There is something to be said about that personal connection, of course. And we wouldn't be, like, as human beings, we always crave that. So that's just a given. But I think there's a lot of good supports out there available to newcomers.
So last question for you. And what about the shock, the reverse shock? À propos du choc culturel inversé. Dans votre cas, Isabelle, par exemple, vous n'avez pas encore eu la possibilité de retourner chez vous pour un voyage. Mais, you, Sunita, so did you have the chance to go to the countries you visited when you were a child? And did you feel the reverse cultural shock?
Yes, absolutely, I did. And I think, I mean, I have not gone back to Kenya, and that's a dream vacation waiting to happen. But going back to India, for sure, I felt that. I think the big one for me is, and I feel a lot of people have the same feeling, is that sense of time, the respect for time, and that discipline that we have here. It is so ingrained in us, but we come from a culture that is very nonchalant about time, or you know, c'est la vie about time, so to speak, right? Oh yeah, that's fine. We'll get there when we get there. So that is something that I find kind of difficult to get my head around. Is like, if you're going to be here in an hour, then at least within an hour and 15 minutes, can you be here, kind of thing? So, or if you've, something has been promised to you, you go back and we get clothes stitched and whatnot, you know, and they'll promise you come back for something in 2 days. And then you're the third day, you're catching your flight back and your stuff's still not ready and you're racing against the clock to get things done. So those are some difficult, and you have to almost shift your thinking around that. And so those are definitely some of the things that I experience when I go back. There are a lot of other things. I mean, in some ways, whether that is a culture thing or now that where we are as more independent kind of people living here, our life, you go back there and irrespective of what your age is, anybody older than you wants to treat you like you're 10 years old and you don't know, you can't speak for yourself, you don't know better, and they're the ones who are going to tell you. So there is a little bit of that clash of wits, if you know what I mean. Like, it's like, no, I think I'm going to do things this way, and they're all there. But that's you know, that's definitely a cultural thing, at least within the Indian custom, and I'm sure everybody does. It's like, doesn't matter how old you are, you'll get treated by those who are older than you, that you'll continue to be treated like a child by them. They'll never see you as an adult. So these are some of the things that, yes, it's interesting, but time, and I think that courtesy and the respect for time and discipline is a big one for sure for me when I go back.
Thank you, Sunita. Isabelle, malgré vous n'avez pas encore retourné à vos pays, mais pensez-vous que vous allez ressentir ce choc culturel inversé?
Alors, je pense que le choc culturel inversé, on l'a ressenti un petit peu quand on est parti vivre à Londres. Mais ce sur quoi je pourrais témoigner, que j'ai ressenti à l'époque où je suis partie aux États-Unis, j'étais partie que 6 mois, c'est pas très long. Mais ça a été une période pour moi très, très intense. J'étais étudiante et j'ai l'impression d'avoir vécu à 100 à l'heure pendant que j'étais là-bas. Et mon ressenti, ce n'était pas réellement un choc culturel, mais lorsque je suis rentrée chez moi, ça m'a fait un choc différent. C'est que moi, j'avais comme vécu 2 ans en 6 mois quand chez moi, il ne s'était rien passé. Et en fait, ça m'a marquée. En fait, je suis arrivée chez moi, j'ai eu l'impression de retrouver ce que j'avais quitté 6 mois avant. Quand moi, il s'était passé tellement de choses en 6 mois qu'il y avait un énorme décalage, et que ce soit ma famille, mes sœurs ou mes amis qui n'étaient pas forcément partis, je me sentais décalée. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était je pense que le fait de voyager et de partir comme ça nous enrichit tellement, on vit tellement de nouvelles expériences, on est tellement à l'écoute et prêt à réapprendre des choses que on avance vite, on s'enrichit.
Merci beaucoup, Isabelle. Mesdames, on a eu une conversation fascinante. Merci, Isabelle et Sunita, d'avoir partagé vos expériences avec nous. C'est fut une discussion informative et enrichissante. Unfortunately, we are finishing here with all these fantastic stories. Thank you so much, Sunita and Isabelle, for sharing your experiences with us. And when we were finishing, I was thinking about something. I have a proposal for you. I think that we have much more to share. So, ici on essayait une deuxième partie, Isabelle. Qu'est-ce que vous pensez?
Avec grand plaisir. Je crois que c'est un sujet, on pourrait en parler pendant des heures. Donc avec
absolument
grand plaisir.
Tout à fait d'accord. Sunita, what do you think?
For sure, if you're not bored of me yet, I would love to participate.
Oh my goodness, absolutely not. It's so fantastic, all this sharing all these stories. Donc, super. Allons pour la prochaine épisode Une ville de réalité. Nous allons alors continuer sur le sujet du choc culturel, l'intégration dans la communauté et qu'est-ce que quelqu'un qui émigre dans une ville comme Kingston, Ontario, qu'est-ce qu'il ressent. Merci d'avoir écouté la 9e balado de la série Une ville de réalité. So, in our next podcast, my guests and I will continue talking about cultural shock, community integration, and what it's like to immigrate in a city like Kingston in Ontario. Thank you for listening to our series One City, Two Realities. Have a good evening, everyone, and à la prochaine.
À bientôt.
Thank you for listening to One City, Two Realities, Une ville, deux réalités, brought to you by ACFOMI, l'Association canadienne-française de l'Ontario, Conseil Régional des Mille-Îles, and produced by Titan Sound in Kingston. Music composed by Elizabeth Santos. ACFOMI souhaite remercier gracieusement Patrimoine Canada, the Kingston Frontenac Public Library, nos partenaires médias, nos commanditaires, et nos invités spéciaux. Visit acfomi.ca for the latest information on our podcast series, as well as all the bilingual events happening in the Kingston and Thousand Islands region.